en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Madame le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Mesdames et Messieurs les académiciens, comme le rappelait à l'instant Madame le Président, c'est un double honneur que vous me faites en m'accueillant aujourd'hui, puisque je suis déjà venu en cette salle en juin 2012. Vous parlez de la situation actuelle des religions en Chine et sans doute le sujet, plus peut-être que la personne qui en parlait, a retenu votre attention, ce qui justifie cette nouvelle invitation. Alors face au thème très large qui m'était proposé par Madame le Président, j'ai choisi de discuter, de vous présenter quelques éléments, sans doute assez inattendus, et l'effet inattendu que j'espère permettra peut-être d'ouvrir de nouvelles voies pour réfléchir à ce qu'est le destin religieux de la Chine contemporaine en prenant une perspective historique qui, j'espère vous rassurer en vous disant qu'elle ne remontera pas trop loin, pas aux origines de la civilisation chinoise, mais en tout cas à l'époque moderne. Et je vous parlerai surtout des élites chinoises de la dernière dynastie, la dynastie des Qing, d'origine manchoue, qui donc domina le monde chinois depuis le milieu du XVIIe siècle jusqu'au début du XXe siècle. Alors, en choisissant de vous parler de la religion des élites chinoises, donc à la fin de l'époque impériale, avec plusieurs prolongements jusqu'à l'époque contemporaine, que j'évoquerai ici ou là, et surtout à la fin de ma présentation, je ne souhaite pas remettre au goût du jour les grands débats qui ont agité le monde universitaire il y a maintenant une génération autour de l'opposition entre religion des élites et religion populaire, même si ces débats qui se sont quelque peu apaisés depuis ne sont pas entièrement clos et ont permis de renouveler notre réflexion au sujet des faits religieux. Il s'agit surtout d'évoquer un malentendu ou peut-être un angle mort de notre connaissance de la culture et de la société chinoise moderne et contemporaine, malentendu qui a en bonne partie été initié par des projets de réinvention du confucianisme comme essentiellement un projet philosophique, projet de réinvention qui se sont déployés tout au long du XXe siècle et qui continuent à être très actifs aujourd'hui, mais qui ne nous permettent pas de comprendre si on accepte ces projets de réinvention comme pouvant fournir une définition normative de ce que c'est que le confucianisme, ne nous permettent pas de comprendre, en tout cas d'appréhender d'une façon globale et satisfaisante de ce qu'était le monde religieux, la vision du monde, les espoirs, et même, pour utiliser un terme un peu plus technique, la sotériologie, l'espoir de salut, les visions du salut individuel et collectif, que partageaient les élites chinoises et qu'ils continuent dans une certaine mesure à partager aujourd'hui. Des travaux très récents, et je pense en particulier au très beau livre de Sébastien Biou et Joël Toraval, « Le sage et le peuple », paru en décembre aux presses du CNRS, vise précisément à remettre en question cette vision du confucianisme que l'on a tenue comme étant une bonne définition au travail de ce que c'est que le confucianisme pendant très longtemps, et a montré qu'il a beaucoup plus de formes, de richesses et de dimensions religieuses que ce que l'on pensait. Mon propos ici s'inscrit dans la continuité de ce travail en lui apportant peut-être davantage encore d'éléments de continuité historique. Donc, je commencerai ma présentation un petit peu loin peut-être, très brièvement au XIIe siècle, mais pour nous amener très rapidement vers des périodes plus récentes. C'est autour de cette période clé du XIIe siècle que certains historiens ont appelé la première modernité chinoise, que l'on voit apparaître une nouvelle technique de production de textes, l'écriture révélée. Plusieurs termes chinois, dont je vous épargnerai l'énumération, décrivent cette technique. Il s'agit d'une technique médiumnique. Le médium est possédé par une divinité, On dit parfois que simplement sa main ou son bras est possédé et il écrit des textes au nom de la divinité qui peut ainsi communiquer avec les humains et leur donner des instructions, instructions qui peuvent être très personnalisées, des conseils, des injonctions à tel ou tel adepte, mais aussi avoir une portée beaucoup plus générale. Et c'est comme cela que ont été produits les livres de morale qu'évoquait à l'instant Madame le Président. Les personnes qui pratiquent cette technique médiumnique et qui, je voudrais insister sur ce point, continue aujourd'hui à être extrêmement pratiqué. Un temple qui se trouvait à Bagnolet a dû fermer récemment parce que le médium ne pouvait plus continuer son travail, mais on produit aussi des textes par cette technique dans notre pays. Et les groupes pratiquant l'écriture inspirée sont extrêmement nombreux dans l'ensemble du monde chinois. La technique est interdite en Chine populaire, mais elle est néanmoins pratiquée à très large échelle de façon plus ou moins discrète. Les personnes qui utilisent cette technique donc, pour produire des textes se rassemblent au sein d'institutions plus ou moins durables, plus ou moins structurées, que l'on appelle souvent les hôtels du Dao, Tao Tan, où l'ensemble des membres sont reconnus individuellement comme des disciples de la divinité ou des divinités qui révèlent des textes par leur truchement et qui les acceptent comme un guide personnel. C'est-à-dire qu'il y a une dimension personnelle très forte dans ce rapport entre le disciple humain et le maître divinité avec un contact très régulier qui souvent s'étend tout au long de la vie des individus et qui leur fournit une sorte de guide spirituel. L'inspiration eschatologique très forte, et sur laquelle je reviendrai dans un instant, marque aussi tous ces groupes dans toute leur diversité. Et là, je suis bien entendu, en tentant de résumer en une demi-heure environ, quelques 8 siècles d'histoire intellectuelle, religieuse, politique et sociale de la Chine, je rassemble une très très grande variété de groupes donc sous cet idéal type. Donc dans ces différents groupes, l'inspiration eschatologique, bien que variable, est souvent très nette. C'est inspiration eschatologique qui justifie la révélation. C'est parce que les temps sont mauvais, parce que la menace des punitions divines pèse sur l'humanité, parce que la situation de dégénérescence morale des humains est arrivée à un stade très avancé, que les dieux prennent l'initiative de ces révélations afin de montrer aux humains une voie de salut. Quel type de textes ont été produits de cette manière-là, sachant que le corpus est absolument immense, il couvre des centaines de mètres dans nos bibliothèques sinologiques, sachant que n'ont été réimprimés et rendus disponibles sur le marché du livre international qu'une petite fraction de cette littérature en perpétuelle expansion est absolument immense. Et encore une fois, qui continue à croître jour par jour. Les textes révélés sont maintenant publiés sur Internet et on peut voir chaque jour de nouveaux textes fleurir qui nous parlent du discours des dieux sur l'évolution de notre société en temps réel, si j'ose utiliser cette expression. Donc on trouve des livres de morale qui enjoignent les humains à modifier leur comportement et à observer un certain nombre de règles morales en les menaçant de punitions divines s'ils ne le font point. Des livres donnant des instructions en matière de techniques de perfectionnement de soi, méditation, visualisation et autres techniques qui permettent d'accéder à un statut divin, j'y reviendrai également. La géographie des dieux qui parle d'eux-mêmes, pour se donner en exemple, aux humains qui sont leurs adeptes. De la liturgie, et en particulier un genre très important, très couramment pratiqué, qui sont les litanies de confession. Les litanies de confession sont un genre particulièrement intéressant dans la mesure où on peut les comparer, et l'exercice intellectuel de comparaison a été fait de façon très enrichissante, avec la confession, dont la portée est en large partie comparable, mais sur des bases très différentes, puisque la liturgie de litanie de confession dans la tradition chinoise est collective et non pas individuelle, et vise à couvrir l'ensemble des péchés, fautes ou erreurs possibles, plutôt que de rentrer dans le détail et la précision de ce que chaque individu a pu commettre comme péché. Enfin, parmi ce vaste ensemble de types de textes révélés, on trouve des grands textes cosmologiques qui reprennent tous ces différents éléments, la morale, le perfectionnement de soi, la liturgie, en les plaçant dans un cadre cosmologique qui permet de donner sens à l'histoire de la révélation et à l'intervention des dieux dans la société humaine. Alors, ce type de texte déploie de façon continue depuis au moins le XIIe siècle et sans interruption jusqu'à nos jours. Mais ce dont je voudrais parler un peu plus précisément aujourd'hui, c'est une phase très intéressante, un peu plus tardive, entre le début du XVIIIe siècle et le milieu ou la fin du XIXe siècle, que j'appelle une phase de canonisation, dans la mesure où ces vastes corpus de textes révélés par lesquels les dieux parlent aux humains a été rassemblé, compilé à l'intérieur de collections que l'on peut certainement qualifier du terme de canon pour chacune des principales divinités auteurs de ces révélations. Et en même temps que ces textes est passé donc par ce processus de sélection et de canonisation, les dieux eux-mêmes étaient aussi canonisés, cette fois au sens où ils recevaient un titre dans la bureaucratie divine, à la fois de la part de l'État impérial, parce que l'empereur en tant que fils du ciel avait ce privilège de donner des titres aux dieux, mais aussi de la part de l'Église taoïste, les deux fonctionnant en tandem, si l'on peut dire, pour mettre en place le panthéon divin. Donc au cours de cette période, 18e, 19e siècle, on assiste à la compilation et la publication de très vastes canons, comptant souvent de nombreux volumes, pouvant aller jusqu'à plusieurs milliers de pages, où les principales divinités s'expriment et mettent en place des systèmes qui sont à la fois des systèmes moraux, philosophiques, théologiques et des projets de salut pour l'humanité. Alors, en quelques mots, comment peut-on qualifier, comprendre, interpréter ce processus de canonisation qui occupe une grande partie, pas la totalité, certes, on trouve aussi des critiques face aux techniques de l'écriture inspirée, face à la publication de ces textes. De vastes débats occupent la meilleure partie du monde intellectuel chinois, mais beaucoup en sont membres. Donc comment comprendre ce mouvement qui emmène avec lui de si nombreux intellectuels, philosophes, poètes, hommes de lettres et hommes d'État? On peut sans doute l'analyser sur trois plans qui sont en étroite interaction les uns avec les autres. En premier lieu, il y a une dynamique sociale liée au fait que les groupes pratiquant l'écriture inspirée en viennent du fait notamment des contraintes que l'État impérial chinois fait peser sur la vie sociale, sur la formation, sur la possibilité de former des groupes, des sociétés, des associations en dehors du contrôle direct de l'État. Pour ces raisons donc, les groupes d'écriture inspirée deviennent une forme privilégiée, pas la seule bien sûr, mais une forme privilégiée de rencontres, de réunions, de vie sociale pour ces membres des élites, comprises au sens très large. On trouve en effet dans ces groupes, et les nombreux textes que j'évoquais à l'instant sont essentiellement donc des textes doctrinaux ou moraux, mais contiennent également de très nombreux éléments historiques, des préfaces, des récits, etc., qui nous permettent de bien comprendre le contexte social, l'identité des personnes qui sont livrées à ce très vaste travail de produire les textes révélés, de les publier, de les diffuser, car bien entendu, si une divinité transmet un texte, c'est le devoir de la personne qui la reçoit que de la diffuser le plus largement possible. Donc ces éléments historiques, ces textes qui nous donnent à voir le fonctionnement de ces groupes, que l'on peut également comparer à l'observation de terrain aujourd'hui, puisque encore une fois ces groupes, ce type de groupe reste extrêmement actif dans l'ensemble du monde chinois, il rassemble donc des personnes allant des plus hauts échelons des élites de l'Empire, les plus hauts fonctionnaires, je vais vous donner un exemple d'illustration dans un instant, jusqu'aux petits fonctionnaires et jusqu'aux membres de la société lettrée qui ont passé au moins le premier degré des examens, donc qui sont reconnus par l'État en tant que lettrés, mais qui n'ont pas pu accéder à la fonction publique. Et on estime qu'au tournant du XXe siècle, il existe en Chine, environ 5 millions de personnes ayant passé donc au moins ce premier degré des examens, donc faisant partie de cette classe de lettrés, si l'on y ajoute les membres de leur famille. Donc c'est une très très vaste population qui se retrouve dans ces lieux où, d'une certaine façon, les hiérarchies très strictes et pesantes de la bureaucratie civile ne sont certes pas oubliées, mais sont d'une certaine façon mise entre parenthèses, du moins rendue relative par d'autres hiérarchies qui sont celles du mérite religieux à l'intérieur de ces groupes. Et ces groupes deviennent donc une façon importante pour des lettrés locaux qui ne font pas partie de la fonction publique, mais qui, par leur rôle d'activistes, fondant des sociétés caritatives, philanthropiques, diffusant des textes, donc jouant un rôle important dans la production et la diffusion des textes, acquièrent un grand mérite et une grande réputation. Une dynamique sociale, donc, par lequel, donc, c'est très très nombreux groupes et des descriptions historiques que nous avons pour le début du XXe siècle nous disent que pour les parties de la Chine qui sont le mieux documentées, je pense en particulier à la région dite du Jiangnan, la région du bas fleuve Yangtze autour de Shanghai, Nankin, région particulièrement bien riche et particulièrement bien documentée, chaque village comptait un groupe de ce type où tous les lettrés, tous les gens qui avaient qui s'étaient formés au classique, sans nécessairement accéder à un très haut niveau de maîtrise de cette tradition lettrée, mais qui du moins avaient une certaine culture, se retrouvaient de façon systématique au sein de ces groupes, avaient un activisme moral, participaient donc à des actions caritatives, produisaient des textes, et pour certains d'entre eux, faisaient des rituels au bénéfice des membres du groupe, mais aussi de la société tout entière. C'est donc un mouvement de fond très très important pour comprendre la société chinoise dans son ensemble et en particulier ses élites lettrées donc depuis les débuts de l'époque moderne et jusqu'au début du XXe siècle. Et tous ces groupes locaux interagissaient entre eux de façon très intense. On voit très bien que les textes circulaient très rapidement. Ils étaient souvent repris, copiés, améliorés par d'autres groupes. Donc, avec la circulation aussi des lettrés et des marchands à l'échelle de l'ensemble du monde chinois et très rapidement à l'échelle internationale. On a de nombreux exemples d'un texte révélé au fond de la campagne du Hunan, disons en 1905, et d'être aussi l'année suivante ou deux ans après réimprimé à Bangkok, à Penang, à Manille, ou dans d'autres parties de ce qui était devenu donc un monde chinois étendu à l'échelle de presque de la planète. Et c'est encore, bien sûr, avec Internet, davantage le cas aujourd'hui. Une dynamique sociale, donc, une dynamique doctrinale également. On voit de nombreuses façons par lesquelles ces groupes pouvaient développer une pensée, un système doctrinal, mais l'une des voies de développement que l'on observe le plus fréquemment et que l'on peut encore observer sur le terrain de nos jours, on voit des groupes de ce type apparaître à chaque instant, donc on peut vraiment suivre avec une approche plus sociologique ou anthropologique la façon dont ce type de groupe se forme et se développe. On voit donc souvent que des groupes se forment d'abord pour permettre à leurs membres de développer des pratiques de perfectionnement de soi. Ils se rassemblent pour pratiquer ensemble la méditation, l'alchimie intérieure, ce type de pratique, d'abord orientée vers le salut de l'individu. Également pour la production et la diffusion de textes de morale. On les voit ensuite, au fur et à mesure qu'ils gagnent une certaine expérience dans la technique médiumnique, dans la révélation de textes, dans la diffusion de textes, on les voit produire des textes de plus en plus longs, de plus en plus élaborés, de plus en plus complexes du point de vue de la pensée et de la doctrine. Et souvent, dans un troisième temps, ils produisent enfin de la liturgie, c'est des textes qui leur permettent de rendre des services rituels pour le salut des individus, donc non seulement entre eux au sein du groupe, mais aussi de la société tout entière. À Hong Kong, par exemple, où ce type de groupe est tout à fait omniprésent dans l'espace social, religieux et caritatif, ils ont un rôle très important dans l'aide sociale à Hong Kong et dans l'ensemble de la Chine. On les voit, au bout d'un peut-être 10 ou 20 ans d'expérience, apprendre le rituel et aller gratuitement, à titre bénévole, à titre d'action charitable, faire des rituels, notamment des rituels funéraires, de salut des défunts, pour toutes les personnes, y compris les nombreux membres de leur groupe, qui en feraient la demande. Dynamique doctrinale, donc, qui passe d'un souci de soi, le souci de se diviniser, sur lequel je vais revenir, à un souci de la société, à un souci de l'autre, qui passe d'une réflexion sur le destin individuel à une réflexion sur le destin collectif. Dynamique politique, enfin, avec la reconnaissance des principales divinités révélant des textes, donc par le moyen de l'écriture inspirée, de la part de l'État impérial. Je passerai plus rapidement sur ce point, simplement en indiquant que la reconnaissance, le fait de conférer des titres, et souvent des titres extrêmement élevés, par exemple, Guandi, donc l'empereur martial, une de ses principales divinités, révélant des textes par l'écriture inspirée, a été élevé au même rang que Confucius, donc à un rang particulièrement élevé, particulièrement prestigieux au sein du panthéon de la Chine impériale à la toute fin de l'Empire. Et ceci était très lié au fait que, par ce moyen, par la canonisation des divinités, l'État impérial nouait une alliance avec ses dieux, bien sûr, qui les protégeaient, et aussi avec les communautés qui promouvaient le culte de ces dieux. Donc, dynamique sociale, dynamique politique sont évidemment très étroitement liées. Et ces mouvements de canonisation avaient souvent lieu pendant ou juste après des épisodes militaires particulièrement difficiles. On pense à la grande révolte du Lotus Blanc au tout début du XVIIIe siècle, et plus encore à la guerre des Taiping entre 1850 et 1864, qui reste la guerre civile la plus sanglante de l'histoire de l'humanité, avec sans doute environ 30 millions de morts. Et une guerre des Taiping pendant laquelle la plus grande partie des élites lettrées, les grands généraux qui se battaient donc pour l'Empire contre les Taiping, pratiquaient l'écriture inspirée et participaient à la création et la diffusion d'un discours eschatologique sur la nature même de la guerre comme étant une forme de punition divine envoyée à l'humanité pour ses péchés. Très rapidement, un exemple pour vous donner une idée de l'implication des plus grande personnalité de la fin de la Chine impériale dans ce mouvement, encore une fois, peu structuré, mais multiforme, mais extrêmement répandu, de production de textes par l'écriture inspirée. C'est l'exemple de Zhu Gui, personnage très intéressant, qui était un haut fonctionnaire, un jeune homme particulièrement brillant, puisqu'il a atteint le plus haut degré des examens de recrutement dans la fonction mandarinale à l'âge de 17 ans. Donc il commence une carrière qui l'amènera au plus haut poste, gouverneur de province. Et il a également été le précepteur de celui qui deviendra le futur empereur, l'empereur Jiaqing, ce qui, à la mort de son père, le célèbre empereur Qianlong, le placera de fait dans la position du deuxième homme le plus puissant de l'Empire, après l'empereur lui-même, et donc une des personnalités les plus marquantes de son époque. Ce Zhu Gui a, d'un côté, une carrière qui est bien connue par l'historiographie classique, dirons-nous, qui relève ses écrits, essentiellement en termes de philosophie politique, d'administration. Mais on a par ailleurs un autre pan de la vie de cet individu extrêmement dévot et qui a laissé dans d'autres genres et dans d'autres collections de textes des textes parlant de sa dévotion à plusieurs des divinités qu'on évoquait tout à l'heure, en particulier l'empereur Wenchang, empereur cette fois-ci au sens de titre divin, qu'il vénérait tous les jours et dont il a participé à la révélation de textes qu'il a édités et diffusés, textes pour certains d'entre eux ayant une très forte teneur eschatologique. Donc tout cela pour suggérer que quand on parle des élites lettrées de la fin de l'Empire comme étant un groupe de personnes, disons, largement sécularisées, peu intéressées par les questions religieuses, c'est une vue très établie dans l'historiographie, mais qu'il faut sans doute nuancer à la lumière de ce type de textes, qui sont, c'est vrai, largement disponibles seulement depuis 10 ou 20 ans, qui étaient auparavant très difficilement accessibles, et qui éclairent d'une toute autre lumière la vision du monde, les convictions, les idées, et aussi les pratiques de ce type de personnes que l'on peut donc retrouver jusqu'au plus haut niveau de l'État. Donc pour ce résumé, autour de ce mouvement de révélation de textes et de ce type de personnes, comme Zhu Gui tout à l'heure, qui est un exemple assez exceptionnel du fait de la carrure de l'individu, mais qui n'a absolument rien d'atypique en termes de conviction ou de pratique personnelle, ou parcours personnel, on peut dessiner ce que j'aimerais appeler une sotériologie des élites chinoises, dans lequel on retrouve cinq éléments que je vais brièvement évoquer. Donc, les pratiques de perfectionnement de soi, une morale que j'aimerais qualifier de puritaine, même si je reconnais très volontiers que le terme est un peu paraître étonnant. J'essaierai de le justifier, une dimension rituelle, un souci de divinisation de soi et enfin une eschatologie apocalyptique. Alors, premier élément, le perfectionnement de soi, je passerai très rapidement parce que nous rentrerions dans des éléments disons, techniques et relativement difficiles d'accès, mais beaucoup de ces groupes pratiquaient, enseignaient des méthodes de méditation et recevaient des instructions directes, donc via l'écriture inspirée, de la part de ces divinités, sur la façon de méditer sur les éléments de son corps. C'est ce qu'on appelle l'alchimie intérieure, qui sont des techniques de transformation de soi, visant, dans un premier temps, pour les étapes les plus préliminaires, à renforcer la santé physique, à acquérir la longue vie, mais très rapidement, à des étapes ultérieures, à accéder à l'immortalité et donc à une forme de transcendance, même si l'usage du terme dans ce concept est assez, disons, délicat. La morale, extrêmement importante, et les livres de morale donc, qui ont été produits par ces individus, par ces groupes, et qui continuent à circuler aujourd'hui très très largement. Ils sont aujourd'hui très largement diffusés par des groupes bouddhiques, ce qui n'a pas nécessairement toujours été le cas, mais ils développent un discours qui vise à trouver une synthèse de la pensée ou philosophie morale, et ce qu'on appelle les trois enseignements, donc les trois principales traditions religieuses et intellectuelles de la Chine classique, bouddhisme, taoïsme, confucianisme, et il se trouve qu'à l'époque contemporaine, ce sont les groupes bouddhiques les mieux structurés, les mieux organisés, et donc ce sont surtout eux qui diffusent ces textes, ce qui ne veut pas dire que ces textes soient purement bouddhiques, ils sont aussi bouddhiques, mais ils sont également confucianistes et ils sont également taoïstes. Et donc les institutions bouddhiques sont extrêmement efficaces dans la diffusion de ces textes, et dans les différents temples chinois de Paris et de l'Île-de-France, dont on compte maintenant une bonne cinquantaine, en rassemblant tous les types de lieux de culte, on trouve des quantités absolument considérables de ce type de livres de morale. Donc, quel est ce discours moral ? En évoquant très rapidement les principaux thèmes, la famille, bien sûr, et les rapports de genre, les rôles de genre à l'intérieur de la famille, les rapports entre époux et épouse, entre parents et enfants, entre frères aînés, frères cadets, et avec un accent, bien sûr, mis sur une morale qu'on a pu qualifier de très patriarcale. La morale sexuelle, thème extrêmement important, avec tout un discours de la part de ces groupes pratiquant l'écriture inspirée, donc au nom des dieux, visant à encadrer très strictement la sexualité, avec d'une part des efforts visant à la réduire de façon générale. On trouve dans les livres de morale des calendriers de jours interdits où plus de 200 jours par an, tout type d'activité sexuelle est interdit, donc vraiment des projets de réduction de la vie sexuelle pour l'ensemble de la population, et aussi, bien sûr, une dénonciation extrêmement forte de toute forme de sexualité hors du mariage, avec de façon intéressante, et c'est là que c'est un des points sur lequel le discours des morales des élites chinoises de la fin de l'Empire rejoint le puritanisme tel qu'il a pu se développer notamment dans le monde anglo-saxon, XVIIe et XVIIIe siècle, faisant de la sexualité illicite en faisant une analyse où les femmes sont essentiellement des victimes. Donc c'est un discours certes patriarcal, mais c'est un discours en même temps très intéressant socialement, mettant le blâme sur la sexualité illicite devant la porte des hommes en position d'autorité ou de pouvoir, et présentant les servantes, les jeunes femmes, les pauvres, les jeunes garçons également, comme des victimes de ces abus de pouvoir, de prédation sexuelle de la part des personnes qui correspond à la base sociale de ce mouvement, à savoir les hommes venant des familles aisées et disposant d'un certain niveau d'éducation. Les hiérarchies sociales, bien entendu, avec un discours, là aussi, qu'on peut qualifié de patriarcal et conservateur dans la mesure où une forte insistance est mise sur le fait de se satisfaire de son sort. Donc une critique très forte sur toute volonté de changer les rapports inégaux dans la vie économique et sociale. Une éthique du commerce très forte, qui est aussi évidemment étroitement liée à la base sociale de ces groupes, parmi lesquels les grandes familles marchandes occupaient une place particulièrement importante, et donc pour lesquelles une éthique du commerce et de l'activité marchande a été développée de façon très détaillée. La charité, donc le devoir de charité envers les pauvres, également des éléments de pureté rituelle et de respect pour les dieux, qui nous montrent bien que cette morale que certains historiens ont pu, en reprenant les thèses de Weber sur protestantisme et essor du capitalisme, ont pu qualifier d'une morale très sécularisée. C'est sans doute vrai en partie, mais il faut en même temps voir que dans ces textes, les questions de pureté rituelle et de respect des dieux restent extrêmement importantes. Donc il ne s'agit pas d'une morale de ce monde, détachée de traditions religieuses, il s'agit d'une morale où l'idée de la surveillance divine est omniprésente. L'idée que les phrases qui reviennent presque à toutes les lignes dans ces livres évoquent le fait qu'on peut être tout seul dans le noir, aucun humain ne vous voit, mais il y aura toujours des dieux qui vous observent. Donc un proverbe dit, à 3 pouces au-dessus de votre tête, il y a des divinités qui vous regardent. Donc l'idée que les humains sont en permanence pris dans ce système de surveillance divine, et qu'il faut donc aussi respecter les dieux parce qu'on est sous leur regard. Et puis, dernier point, la question de la vie animale et des tabous alimentaires qui sont également très présents dans toute cette production de discours, avec d'une part une dénonciation de groupes religieux que l'historiographie qualifie volontiers de sectaires, qui étaient entièrement végétariens, donc une volonté de se distancier de ce type de groupes religieux, en disant « nous ne sommes pas végétariens », mais en posant toujours comme une affirmation très forte le fait que prendre la vie, quelle que soit la forme, y compris d'un insecte ou de forme très inférieure de vie animale, est un péché, que parfois ce péché est inévitable, mais qu'il reste néanmoins un péché, qu'il faut donc le limiter autant que possible. Et une des façons de le limiter, c'est de respecter de façon absolue, donc y compris en instituant des tabous alimentaires, les formes les plus évoluées de vie animale, ce qui concerne particulièrement les bovins, les équins et les chiens. Donc tout ce discours de morale qui met en place un ascétisme intramondain, placé donc sous la surveillance permanente des divinités. Donc, ascétisme intramondain lié à une pratique rituelle intense que j'évoquais tout à l'heure autour de la question de la pratique des litanies de confession par lequel ces lettrés, individuellement ou collectivement, se pratiquaient très régulièrement la récitation de ces litanies, donc invoquant les divinités en leur demandant de pardonner ou d'effacer leurs péchés et rappelant donc la liste de tous ces péchés dont je viens de donner un résumé très, très succinct, qui sont donc au cœur de leur vision du monde. Divinisation de soi, qui est l'objectif premier pour la plus grande partie des personnes qui participent aux activités de ce qu'on appelle donc les Daotan, les hôtels du Dao, pratiquant l'écriture inspirée et cherchant à mettre en place au sein de la société leur programme de réforme morale. Alors, une théorie anthropologique très largement répandue au sujet du monde chinois veut que parmi les types d'êtres surnaturels, les habitants de l'autre monde, on trouve d'une part les ancêtres et d'autre part les dieux, et je laisse de côté les autres types d'existence moins désirables après la mort, et que les personnes ayant vécu une bonne vie, ayant une descendance, ayant accompli leur mission ici-bas, sont transformés en ancêtres, et que seuls ceux qui ont sans doute comporté de façon héroïque, mais qui ont été victimes d'une mauvaise mort, les soldats morts sur le champ de bataille, les héros trahis, assassinés, voilà, ce type de personnes, deviennent des dieux. L'observation reste assez largement juste, Finalement, si on regarde quels sont les dieux qui peuplent le monde chinois, on se rend compte que beaucoup, si ce n'est la majorité d'entre eux, ont été ces victimes de mauvaises morts, c'est qui deviennent d'abord des démons avant de pouvoir être transformés éventuellement en dieux et de monter dans la bureaucratie divine. Mais il faut fortement nuancer, je crois, cette observation en constatant que tout en voulant bien sûr devenir des ancêtres et donc de bénéficier du culte de leurs descendants, enfants, petits-enfants et descendants aux générations suivantes, de nombreux membres des élites à la fin de l'époque impériale et encore au XXe siècle souhaitent, pensent, espèrent, voire sont persuadés de devenir des dieux. On peut devenir un dieu de plusieurs façons différentes. J'évoque très rapidement d'abord l'ordination. On peut être ordonné essentiellement dans un cadre taoïste, même s'il existe également des procédures bouddhiques à cette fin. Être ordonné, c'est recevoir un titre dans la bureaucratie divine. Quand cela n'a pas été fait du vivant, cela peut être fait au moment des rituels funéraires. Et en réalité, la plupart des rituels funéraires, qu'ils soient pratiqués par les taoïstes ou les bouddhistes, et cela est vrai aujourd'hui comme ça l'est depuis de nombreux siècles, on reçoit un titre d'ordination, et d'ailleurs cela n'est pas propre au monde chinois, des choses tout à fait semblables peuvent être observées au Japon, en Corée, au Vietnam. On reçoit un titre au sein de la bureaucratie divine, donc qui vous donne ce statut de divinité. Les fonctionnaires de la fin de l'Empire étaient absolument persuadés qu'après leur mort, ils seraient promus comme ils continueraient leur carrière, traversant en quelque sorte la barrière de la mort d'une façon relativement souple et sans trop de heurts, et qu'ils seraient promus dans la bureaucratie divine, continuant à travailler. Une destination privilégiée était les fameux dieux des villes, les Changhuang, sachant que dans chaque ville où se trouvait le siège d'une administration, se trouvait le dieu de la ville qui était le partenaire naturel du fonctionnaire vivant, en charge donc de tel district ou préfecture, que la première chose que faisait un fonctionnaire en arrivant en poste était d'aller passer la nuit dans le temple du dieu de la ville pour lui prêter serment de travailler avec lui et d'observer leurs valeurs communes qui sont respect des populations, respect de la vie, application de la loi, non-corruption, équité, etc. Donc beaucoup de... Et on retrouve très très fréquemment dans les écrits des lettrés cette idée que, voilà, après leur mort, ils continuent à mettre en œuvre leur ethos, leur connaissance, leur savoir-faire de membres de l'administration civile, simplement dans l'autre monde, au service des dieux. Et de nombreux groupes pratiquant l'écriture inspirée, par ailleurs, divinisaient également leurs propres membres, et ça reste aujourd'hui un phénomène extrêmement courant, facile à observer. Un membre d'une génération antérieure d'un groupe pratiquant l'écriture inspirée, une fois décédé, fait partie des dieux qui va révéler, qui va dialoguer avec les membres de la génération suivante qui continuent à faire vivre ce groupe. Donc cette idée de divinisation de soi, elle est omniprésente et je crois qu'elle est très importante pour comprendre la façon dont ces élites chinoises voyaient le monde, voyaient leur mission et voyaient leur rôle au sein de la société. Alors si la divinisation de soi peut sembler être un élément optimiste d'une certaine vision du monde, il y a vraiment chez les traits l'espoir, la conviction qu'ils deviendront des dieux. Donc il y a cet optimisme. Il y a aussi l'autre côté de la pièce de cette vision du monde est un pessimisme très fort sur le destin collectif de l'humanité. Est-ce que si eux, en tant qu'élite, se pratiquant cette ascèse intramondaine, cette forte exigence morale, pratiquant le perfectionnement de soi, peuvent devenir des dieux, la plupart des humains n'ont pas les capacités ou la force morale d'en faire autant, se livrent à un nombre extrêmement élevé de fautes, d'erreurs et de péchés, et donc vont être punis par les dieux pour leurs fautes, punition qui peut danser dans les récits, dans les textes que ces groupes produisent, très aisément glisser, et la frontière est extrêmement floue entre les deux, entre la punition individuelle et la punition collective. Et il y a une idée de destin collectif qui est extrêmement forte et qui génère une inquiétude très marquée par rapport à la possibilité d'une apocalypse. Les récits extrêmement nombreux, depuis longtemps, mais qui se multiplient particulièrement depuis le milieu du 19e siècle, donc des récits nous raconte que la bureaucratie divine a décidé que c'en était assez, que les humains ont commis trop d'erreurs, de péchés, ont allé trop loin dans leur déclin moral, et que mieux vaut annihiler l'humanité et recommencer à nouveau un nouveau cycle, avec peut-être simplement quelques élus qui pourront, d'une certaine façon, faire la transmission entre les deux ères. Alors ce discours eschatologique, apocalyptique, existe depuis très longtemps. On en a déjà des sources très bien développées depuis le début de notre ère. Simplement, dans la formulation que leur donnent les élites lettrées à l'époque moderne et contemporaine, les éléments messianiques et millénaristes très très forts et qui continuent par ailleurs à exister dans d'autres traditions, dans d'autres formulations de la pensée eschatologique chinoise, ces éléments sont mis de côté par les lettrés, mis entre parenthèses, même s'ils ne disparaissent pas nécessairement totalement. Il y a toujours une apocalypse finale, mais elle ne peut plus être prévue, elle est plus inéluctable, elle est d'une certaine façon négociable entre les humains et les divinités, et c'est le rôle de ces groupes que de sauver l'humanité en mettant en place une œuvre de réforme morale collective, d'où l'aspect fortement prosélyte qu'ont ces groupes qui vont prêcher sur la place publique, qui diffusent les livres et qui essaient de mettre en place, par toutes sortes de moyens, incitatifs ou plus autoritaires, des tentatives de réforme morale de l'humanité afin précisément d'éviter l'apocalypse et de retarder donc ce moment où la décision des dieux de mettre fin à notre ère va arriver. Donc ces discours eschatologiques qui peuvent, et j'imagine volontiers, peut-être même d'une certaine façon, j'espère vous surprendre en disant cela, ce n'est pas une chose à laquelle on pense très spontanément quand on évoque la vision du monde des lettrés et intellectuels chinois de l'époque moderne, ces discours eschatologiques sont en réalité extrêmement répandus depuis les époques anciennes jusqu'au présent, même s'ils... Il faut reconnaître qu'ils ne suscitent pas nécessairement chez ceux qui les tiennent ou les entendent un sentiment d'anxiété ou de peur très aiguë de fin du monde. Comme ces discours, ces termes, ces concepts circulent très largement, ils sont reconnus, ils sont acceptés en tant que tels sans nécessairement être occuper une place centrale dans la vision du monde qu'ont les individus. Néanmoins, à certains moments où le monde réel tel qu'il est vécu par les individus peut donner l'impression d'une punition divine collective de l'humanité, ces discours-là sont réactivés. Ça a été le cas pendant le guerre des Taiping, ça a été le cas pendant des grandes famines qui ont suivi, je pense à la grande famine de Chine du Nord en 1876-1879. Ça a été le cas de façon très intéressante pendant la Première Guerre mondiale, qui a donné lieu en Chine même s'ils étaient des observateurs lointains, pour la évidemment, très grande partie d'entre eux, à la production d'un discours eschatologique extrêmement nourri et extrêmement répandu, et ça l'est encore de nos jours, qu'on suit un petit peu les mouvements religieux chinois, on voit que dès qu'il y a une catastrophe dans ce monde, par exemple la catastrophe de Fukushima, il y a quelques années, a donné lieu à un discours eschatologique très développé et très aigu de la part d'un très grand nombre de groupes religieux chinois, couvrant tout l'éventail des mouvements les plus sectaire, si on veut utiliser ce terme, envers lequel j'ai beaucoup de réserves, jusqu'à des mouvements beaucoup plus établis. Donc, en conclusion, les lettrés intellectuels chinois de la fin de l'Empire et encore dans une large mesure au cours du XXe siècle, en ce début du XXIe siècle, ont développé une sétoriologie qui leur accorde à eux-mêmes, en tant que membres des élites, en tant que lettrés, un rôle crucial dans le destin de l'humanité et, d'une certaine façon, un rôle collectif de sauveur. Cette sotériologie lettrée, elle s'accommode de rapports fluctuants avec les trois enseignements, les trois religions, bouddhisme, taoïsme, confucianisme. Parfois, l'un ou l'autre peut être davantage mis en exergue, mais les trois sont en réalité toujours présents, à la fois en termes d'identité revendiquée, donc certains de ces groupes se disent confucianistes, beaucoup d'entre eux, en fait, au cours du XXe siècle, et certains vont se dire plutôt taoïstes ou bouddhistes, les éléments objectifs que l'on peut repérer, bouddhistes, taoïstes et confucéens, dans ces groupes et dans leurs textes, dans leurs pratiques, sont toujours très nombreux, et les interactions avec les temples, avec les institutions de ces trois religions, sont également variables, mais souvent très, très nourries. Donc, cette soteriologie vise à imposer donc un ordre moral sur la société, ordre moral qui, je crois, soutient la comparaison avec le puritanisme anglais du 7e, 18e siècle. Et il lit de façon très intéressante l'espoir de devenir un dieu, essentiellement sous des formes taoïstes, pas uniquement, mais c'est essentiellement un cadre taoïste qui définit l'au-delà et la bureaucratie divine, et la façon dont on peut accéder, et donc faire son salut, qui est d'échapper aux punitions divines en accédant au rang de la bureaucratie divine. Donc devenir un dieu et échapper individuellement ou collectivement aux désastres et aux punitions divines. Cette soteriologie explique, contribue en tout cas, je crois, de façon très intéressante, à expliquer les attitudes et les réactions des élites pendant les temps de crise, les guerres, les désastres, les changements de régime, et permet aussi de mieux comprendre les pratiques spirituelles individuelles, souvent mal documentées par les sources historiques parce que cela relève de l'intime de la personne, mais qui, quand on a accès à des sources ou à l'observation de terrain pour les personnalités contemporaines, se révèlent beaucoup plus riches et intenses qu'on ne le pense souvent. Et de plus, cette soteriologie qui a tant fleuri, qui a tant produit de textes à la fin de l'époque impériale, continue à être pertinente au XXe siècle pour trois raisons, et ce sera mon dernier point. D'une part, toute cette tradition, donc très multiforme, très peu structurée, mais omniprésente dans la société chinoise, a été la matrice immédiate de la formation de grands mouvements religieux au cours du début du XXe siècle, donc dès les débuts de l'époque républicaine, quand les obstacles que l'État impérial dressait sur la possibilité des groupes religieux de se structurer et de former de vastes structures que l'État impérial jugeait menaçantes et donc indésirables, quand ces obstacles ont été levés, très rapidement cette tradition a suscité de vastes mouvements religieux, eux extrêmement structurés, très modernes, comptant souvent plusieurs dizaines de millions de membres, qui s'étendaient à l'ensemble du monde chinois, donc dépassant très largement les frontières de la République de Chine, et dont certains, donc ces groupes que l'historiographie de nos jours appelle les sociétés rédemptrices, bon, le terme peut se discuter, mais il évoque cette dimension eschatologique qui est très présente dans leur message. Et certaines de ces sociétés rédemptrices sont encore très actives aujourd'hui, je pense au Yiguandao, qui est une des grandes religions chinoises à l'échelle internationale. On compte 4 ou 5 temples Yiguandao à Paris, en banlieue parisienne. C'est-à-dire que c'est vraiment présent partout dans le monde chinois. Oui, a été la matrice aussi d'autres groupes qui ont pu se développer depuis une trentaine d'années, qui sont peut-être un petit peu détachés de ce modèle-là, mais qui en gardent de nombreuses traces. De façon beaucoup plus diffuse, la tradition eschatologique reste très vivante, comme je l'évoquais tout à l'heure, et à chaque fois qu'il y a une catastrophe naturelle ou une menace, disons dans la conjoncture politique, très très forte, ces discours reviennent de façon très forte dans le discours social, dans les médias, dans les discussions des personnes, parfois de façon peu élaborée, voire peu cohérente, intellectuellement ou doctrinalement, mais ces idées-là sont extrêmement présentes. Et je crois qu'on en voit encore une autre trace de cette soteriologie lettrée dans la croyance extrêmement forte qu'ont encore, toujours, si on peut dire, les élites chinoises, du fait qu'en tant même qu'élite, elles ont un devoir de sauver la société par une réforme morale et par une amélioration de la qualité morale des individus, qu'elles en ont le devoir et qu'elles en ont également la possibilité. Donc avec une dimension relativement utopique de ce projet, et dont on voit des expressions sous toutes les formes, allant de projets relevant des politiques publiques jusqu'à des initiatives issues de ce qu'on peut appeler la société civile. Je m'arrête là et je vous remercie très vivement de votre attention.